Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
h08, le retour de ce week-end des experts, l'automobile, un bon dimanche et merci de nous avoir choisi. Merci d'être là, fidèle à ce rendez-vous. Beaucoup de questions au 32-16, de remarques aussi sur Direct Studio. Hein. Comme d'habitude, vous êtes très 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 nombreux à réagir aux propos de Jean-Luc, à réagir sur l'actualité de l'automobile, à réagir aux questions des auditeurs aussi. Et on a Sylvain tiens, qui nous dit par exemple qu'il a grandi en camping-car et qu'il aimerait bien avoir un van aménagé. Tiens, c'est une grande tendance ça aussi,
ouais,
Jean-Luc.
C'est une tendance, hein, on revient un
petit peu. C'est amusant, hein,
oui,
les vans Volkswagen des années 70.
Le combi Volkswagen.
C'est rigolo. Et bien, il nous pose une question là-dessus. Ça serait peut-être amusant un jour de parler de ça. Peut-être pas ce dimanche, mais dans l'une des émissions qui arrive. Jean-Luc, tout à l'heure, on va parler de désinfection flash des véhicules. Comment désinfecter très rapidement une voiture et tuer tous les virus et microbes à l'intérieur. Mais auparavant, Bruno nous attend au 32-16. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour.
Bonjour Bruno,
bonjour,
bienvenue.
Jean-Luc. Bonjour Bruno.
Bonjour Jean-Luc, bonjour François. Je vous explique rapidement mon petit problème de boîte à vitesse.
Oui, parlez bien dans le téléphone hein, Bruno, pas d'ampli, hein, bien dans le micro. Parce que là, ça résonne un peu.
Je vous m'entendez pas trop bien.
Ça va. Allez-y.
D'accord. Bon, donc, en juillet de 2020, j'ai acheté à un ami un RAV4, boîte auto, 150 chevaux et presque 100 000 km. Voilà, donc, comme c'est mon habitude, quand je récupère un véhicule d'occasion, même si je le connais, je fais une révision complète. Donc là, comme le véhicule a encore une certaine valeur, c'est aux alentours de 500 000 euros, j'ai demandé à ma concession Toyota la plus proche, dans le Vaucluse, Avignon, un devis pour une révision complète, c'est-à-dire boîte, pont, moteur, filtre, etc. Donc, dans ma prometteur, il m'a dit, mais la boîte, c'est pas la peine, on fait pas. Ça sert à rien. Bah, j'ai dit, je suis désolé, moi, à 87 000 km, à la 6 ans, vous faites la boîte ou alors je vais voir ailleurs. Donc finalement, ils ont accepté de faire la boîte.
C'est une boîte mécanique que vous avez ou une boîte
Non, c'est une boîte auto.
Une boîte automatique, une boîte auto, d'accord. Ouais.
La ATSG, la américaine.
Ouais.
Voilà. Donc, préconisation ATSG 85 000 km, préconisation Toyota 100 000 km. Ou 6 ans. On est en plein dedans. Donc, comme j'ai besoin, moi, en fait, d'avoir un fil d'entretien du véhicule qui soit bien à jour, qu'un réentretien.
Oui.
Voilà, donc, c'est parti, ils font la révision. Je récupère le véhicule, je fais 800 km. Sur l'autoroute, aux alentours de Toulon, j'ai chez mon fils, alarme température haute boîte. Bon, je m'arrête, etc. Là, je commence à m'inquiéter. Et bon, enfin bref, je le fais très vite. Le lendemain, je vais à la concession de Toulon qui va bien. Ils expertisent mon véhicule. Je la récupère 4 heures après. On me dit, monsieur, il y avait 5 litres d'huile en trop dans la boîte auto. Bon, donc là, ça c'était les administratifs qui me disent ça, ok, ben voilà, donc on fait un rapport d'expertise, on l'envoie à Toyota Avignon, voilà. Mm-hmm. Et là, du coup, comme je suis le mécano dans la tête et dans les mains, est-ce que je pourrais discuter avec le technicien qui a fait ça?
D'accord.
J'attends un petit peu, j'ai presque fini, hein. J'attends un petit peu, finalement le technicien arrive, lui il n'était pas du tout au courant du contexte, il me dit mais mon pauvre monsieur, mais qui c'est qui vous a fait ça, c'est vous qui avez fait ça? Je dis bah non, on vous l'a peut-être pas dit, mais c'est un de vos
mécanos, ouais.
Voilà. Bon, donc j'ai dit mais je voulais vraiment savoir, pour moi c'est très grave, hein, parce que je suis un peu dans la partie. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit, moi, je sais pas, c'est inconnu, je pense que c'est une première chez Toyota. Comment elle a pu faire, déjà, le tech? Parce que la boîte, elle fait 6 litres 7. Bon, elle est un peu particulière, la boîte. Vous savez, les boîtes auto, mais elle est un peu particulière. C'est-à-dire qu'il faut, comme je l'ai exigé, Il faut ouvrir le cache pour vidanger complètement. Et j'ai exigé le remplacement aussi, je vais bien le dire.
De la crépine ?
De la crépine. Et voilà. Mais non, mais bon.
Et ben, alors, Bruno...
Je leur ai demandé, je veux la crépine ancienne dans
D'accord.
Bruno, mais vous en êtes où aujourd'hui alors ?
Ouais. Elle est en panne, votre voiture, ou elle fonctionne à nouveau ?
Aujourd'hui, j'en suis que. Bon, le concessionnaire qui a fait la manip. Il considère que la voiture fonctionne. Donc là, du coup, ils m'ont proposé, ils l'ont fait, une expertise. Je leur ai rapporté le véhicule, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Ils m'ont dit, monsieur, tout va bien, pour y aller. Bon, donc, mais je veux savoir ce qui se passe et quelles sont les dommages possibles sur mon véhicule. À l'oral, ils m'ont dit, je suis attelé, de toute façon, vous ne le faites pas. Dans la boîte auto, il y a des capteurs de décharge, il y a des soupapes de décharge de pression d'huile qui déchargent une pression excessive dans le couvertisseur de coupe. Je dis, OK, vous me l'écrivez, tout ça, j'ai un rapport d'expertise.
Exactement ce que j'allais vous dire. Il faut qu'ils vous le mettent par écrit. Il faut qu'ils vous le mettent par écrit, parce que là, attendez... 5 litres d'huile en trop, non mais attendez, en plus une boîte automatique, c'est au décilitre près la quantité d'huile à mettre dedans, et à une température déterminée. Chaque constructeur vous donne la température, c'est-à-dire l'huile que vous allez mettre dedans, elle doit être à une certaine température, et l'huile de boîte à une certaine température.
C'est-à-dire que le gars remplit ça comme un arrosoir.
Voilà, et c'est pour ça que quand vous allez chez les concessionnaires qui sont pas habitués à faire des boîtes auto et que vous leur demandez une vidange de boîte automatique, ils vous regardent avec des grands yeux en vous disant il n'y a pas d'entretien sur les boîtes automatiques, c'est juste parce qu'ils savent pas le faire, et qu'en plus ça peut casser la boîte. Donc vous avez eu du pot déjà de pas avoir pris la boîte dans le museau. Ça c'est le premier truc, hein, parce que vraiment avec autant d'huile dedans, normalement, elle aurait dû casser votre boîte. Donc, surtout, vous faites effectivement mettre par écrit, mais envoyez-leur un recommandé. Envoyez-leur un recommandé en disant, à telle date, j'ai fait faire la vidange de ma boîte auto, etc. Mon véhicule sur l'autoroute est tombé en panne à tel moment.
Vous avez constaté qu'il y avait 5 litres d'huile.
C'est pas vous, c'est le garage Toyota de machin a constaté que machin. Vous êtes donc responsable. Je vous demande par écrit de me certifier que ça n'impactera pas la durée de vie de la boîte de vitesse. Voilà, vous leur demandez un truc écrit. Parce que autrement, vous dire ben non, elle marche bien, puis peut-être que dans 200 km, elle ne marchera plus du tout.
Et à votre avis, Jean-Luc, qu'est-ce qu'elle peut avoir un impact ?
Ça peut avoir eu un impact sur la boîte de vitesse, oui. D'accord. 5 litres, c'est complètement démentiel, quoi.
C'est fou, ça.
Le gars qui a fait ça, je ne sais pas d'où il sort, mais il faut qu'il change de métier. Complètement dingue.
Bon, Bruno, merci en tout cas pour votre appel. 9h16, on enchaîne avec un autre sujet maintenant sur la désinfection des véhicules. Alors, c'est pas la première fois qu'on en parle. Rappelez-vous, hein, au cœur de la première vague épidémique, Jean-Luc, on avait reçu une société spécialisée dans le nettoyage des véhicules. C'était très intéressant.
Et on faisait du nettoyage à l'ozone. Alors, le problème du nettoyage à l'ozone, alors c'est très efficace.
Mais c'est long.
Mais ça prend 10 minutes.
Ah, bon, d'accord.
Alors, oui, non, mais... Ça prend 10 minutes, vous allez me dire, ouais, c'est pas si long que ça. Mais imaginez, vous êtes un garagiste, un centre de contrôle technique. Si
vous devez en faire un maximum.
Vous devez faire 10 minutes par voiture, c'est pas possible. Vous êtes VTC, vous êtes taxi, vous êtes loueur.
Bien sûr.
Faites de l'autopartage, c'est pareil, les 10 minutes nécessaires, c'est trop long. Donc, on sait qu'il y a des techniques qui permettent d'aller plus vite. Et en l'occurrence, on va faire la lumière sur les UV qui permettent d'éliminer tous les virus et toutes les bactéries.
Éric Breuil est avec nous.
Oui, Éric Breuil qui a fondé
UV Mobi.
UV Mobi, voilà.
Bonjour Éric.
Bonjour Éric.
Oui, bonjour messieurs.
Bon, expliquez-nous pourquoi UV Mobi, ça existe depuis combien de temps d'abord ?
Alors UV Mobi, on a commencé à s'intéresser à ce problème de la désinfection des moyens de transport à partir du mois de mai.
Donc c'est étonnant,
confinement.
D'accord.
Voilà. Donc on s'est intéressé effectivement à un système qui permet de désinfecter, une technologie qui permet de désinfecter très rapidement les automobiles, et donc en utilisant des rayonnements ultraviolets de type C.
D'accord. Alors c'est pas ceux avec lesquels on bronze, hein, c'est ça. Si François se met dans la voiture temps en se disant je vais avoir un boal en sortant de la voiture, c'est pas bon.
Non, absolument pas. Il n'y a pas d'ultraviolets de type C sur la Terre. Hein. Ils sont bloqués par l'atmosphère. Donc c'est une source lumineuse, artificielle. Donc le principe, alors les ultraviolets de type C, c'est pas nouveau, on les a pas inventés. Ça fait 40 ans que ça existe. C'est utilisé par exemple dans la désinfection des hôpitaux. C'est utilisé même pour désinfecter le lait et voilà, le lait ou les jus de fruits, peut-être que votre jus de fruits du matin était désinfecté par UVC.
Ça le pasteurisé en quelque sorte, c'est ça?
Alors c'est pas de la,
c'est
alors,
pas chauffé,
c'est pas de la pasteurisation,
hein.
mais c'est assez proche. Alors c'est pas chauffé. C'est ce qu'on appelle la pasteurisation à froid, par exemple pour le lait ou les jus de fruits.
Oui, d'accord.
Donc ça ne chauffe pas. Et on fait de la désinfection, on ne fait pas de la stérilisation. Alors
d'accord.
Ça, c'est important. C'est important aussi de faire la différence.
C'est quoi la différence, justement, entre les deux?
La stérilisation, c'est ce que vous faites, par exemple, à l'hôpital. Le bistouri qui va vous opérer, il a été stérilisé. L'aiguille qui va vous piquer a été stérilisée. C'est-à-dire, c'est zéro bactérie, zéro virus, on est à zéro. Quand vous faites de la désinfection, en fait, vous réduisez le pourcentage de bactéries jusqu'à atteindre 99,99999.
Voilà. Ouais, enfin, ça, on n'est pas loin de 100, quoi. Ouais.
Voilà, donc ça, alors ça va dépendre de beaucoup de choses. Que ça soit de la chimie, des UV, de l'ozone, ça va dépendre du temps d'exposition, combien de temps ça va durer. Ça va dépendre aussi de la puissance.
Des lampes, oui, bah, évidemment, oui.
Voilà, donc pour nous, ça va dépendre des lampes ultraviolettes qu'on utilise. Pour une voiture, on va utiliser 4 lampes de 60 watts. Donc on va mettre 240 watts de lumière dans votre voiture, ce qui fait que ça va être un temps relativement court, donc 2 minutes. Voilà, en moyenne, sur les petites voitures, on peut mettre 1 minute, sur les très grosses, on peut mettre 3 minutes. La moyenne, c'est 2 minutes. Et aussi, l'avantage d'une voiture, c'est que c'est relativement petit, une voiture. Donc, on est proche des surfaces à désinfecter.
D'accord. Et alors, donc, comment ça se passe? Vous avez des, il y a des pantographes, ça rentre par les vitres latérales de la voiture, c'est ça? Vous mettez les lampes à l'avant, à l'arrière?
Voilà, c'est ça. Alors, c'est un système manuel. Donc, c'est 4 pistolets qu'on va installer à 4 portières. Donc, on baisse les vitres de la voiture. On installe les 4 pistolets. L'opérateur a installé 4 pistolets avec des tubes à l'intérieur. Donc, ça, c'est très rapide. Dans l'installation, c'est 10-15 secondes le temps de poser les pistolets. Oui. Qui sont maintenus sur la portière avec des aimants.
D'accord.
Voilà. L'opérateur va s'écarter, va appuyer sur un bouton. Il va lancer le cycle de désinfection qui va durer 2 minutes. Au bout de 2 minutes, le système va s'arrêter. L'opérateur retire les 4 pistolets et puis il peut passer à la voiture suivante.
D'accord. Est-ce que vous gardez une marge? Parce que vous dites que la désinfection dépend à la fois de la puissance des lampes, mais du temps d'exposition. Est-ce que vous gardez une marge de sécurité, entre guillemets?
Oui, on garde. Alors, on met une marge qui est extrêmement importante parce que il a été bien documenté, alors depuis des années, depuis le Covid, la sensibilité des virus et des bactéries aux ultraviolets. Donc on sait que par exemple pour le Covid-19, alors sans rentrer en détail, à 5 millijoules par centimètre carré, on est à 99% de désinfection.
D'accord. Voilà.
Et donc nous, on s'assure que on atteint au minimum ce taux et avec un facteur très très important de sécurité. Je vous donne un exemple. Par exemple, au niveau du volant, le volant va être très proche de notre source de lumière. On va être à peu près à 20-30 centimètres. Et sur le volant, en fait, on le désinfecte en 15 secondes. En 15 secondes, on atteint la dose minimale pour être à 99%.
D'accord.
Et donc forcément, au bout de 2 minutes, oui, vous êtes à 99,99999.
Bon, ça va rassurer Christian Requia qui trouve que les volants, c'est absolument innommable en termes de concentration de bactéries. C'est vrai en plus d'ailleurs. Parce que là, on parle du Covid-19, mais une voiture, c'est un nid à bactéries, même habituellement.
Exactement, oui, exactement. Alors, il y a eu beaucoup d'études. Alors, elles sont assez, à la fois drôles et inquiétantes. Il y a des études qui montrent qu'il y a dans une voiture, il y a 700 bactéries par centimètre carré et que les sièges arrière des voitures sont 8 fois plus sales qu'un siège de toilette. Donc ça, c'est les voitures de particuliers. Alors, les voitures de professionnels qui sont en autopartage, taxi, VTC, location, ben, c'est beaucoup plus élevé parce que vous avez beaucoup plus de passages de personnes.
Ouais, ouais.
Et peut-être des fréquences de nettoyage un peu plus faibles.
C'est pour ça que François a mis un abattant de toilette sur son siège de voiture. C'est plus propre.
Moi, j'avais juste une question. Est-ce que ça n'abîme pas?
Oui, voilà, c'était la question que j'allais poser. Il n'y a pas de risque pour les matériaux, l'UVC?
Les matériaux?
Alors ça, c'est une question très intéressante qu'on nous a posée tout de suite dès qu'on a commencé à y travailler. Les intérieurs des voitures sont abîmés par les UVA et UVB, donc la lumière du soleil, et aussi par la chaleur. Il peut faire très chaud dans une voiture, faire jusqu'à 70 degrés dans une voiture. Donc c'est ça qui dégrade principalement les garnissages de voitures. Ceci étant dit, il y a très peu d'études en fait sur les UVC et l'effet sur les plastiques. Et donc on a fait des études nous-mêmes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des échantillons de plastique. On les a soumis à un vieillissement accéléré avec nos systèmes à ultraviolets et on les a fait tester par un laboratoire spécialisé qui a testé la différence éventuelle de couleur avant et après le vieillissement.
D'accord.
Et en fait, les résultats sont très bons. C'est qu'on assiste, alors sur des plastiques qui ne sont pas traités anti-UV, hein, ce qui est quand même beaucoup de plastique dans les voitures, on assiste sur certains plastiques, donc très précisément sur 5 plastiques sur 19, on assiste à un léger changement de couleur au bout de 1500 désinfection successive.
Ah oui, ça laisse de la marge, oui.
Voilà, donc on est sur des taux, voilà, faut vraiment faire ça très fréquemment pour qu'on puisse avoir un léger effet sur certains plastiques.
Alors, comment on fait pour faire appel à vous? On peut faire désinfecter à domicile son véhicule, on peut acheter une machine, comment ça se passe?
Alors nous on vend les machines, donc on avait fait un test à Paris pour montrer notre système avec un petit vélo cargo où on pouvait désinfecter des véhicules comme ça dans la rue. Non, nous en fait notre principe c'est de vendre le matériel, donc vendre ce matériel à des professionnels, des loueurs, des flottes de voitures, le contrôle technique, enfin tout ce qu'on veut, tous les professionnels du transport des garages qui sont amenés à nettoyer, désinfecter et réparer des voitures.
D'accord, c'est une machine qui coûte combien?
Alors on vend ce système à partir de 3 900 €. Alors c'est un investissement, mais après...
Oui, mais après, on imagine que toutes les voitures qui rentrent dans une concession, si oui. On vous propose pour 5 euros de vous la désinfecter en plus, personne ne va dire non.
Exactement, et surtout, vous n'avez aucun consommable après. Hein. Après, le seul consommable, c'est éventuellement le petit 2 minutes d'électricité que vous avez.
Oui, à 60 watts par lampe, ça va.
Voilà, les lampes, ouais, exactement. Les lampes durent 6000 heures. Donc 6000 heures, vous faites 180 000 désinfections de 2 minutes, quoi. Donc oui. Vous pouvez voir venir...
D'accord. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer pour la suite un système pour les particuliers un peu plus simple, même si le temps d'exposition est plus long, avec une seule lampe qu'on déplacerait, par exemple?
Oui, qu'on pourrait acheter.
Ouais, qu'on pourrait acheter soi-même.
Alors, on pourrait avoir un système avec une lampe qu'on déplacerait à l'intérieur de la voiture. Donc ça c'est tout à fait faisable. La difficulté, alors il y a deux difficultés. La première difficulté, c'est que les ultraviolets type C, c'est dangereux.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il faut, alors, vous faut être soit éloigné de la source, ce qui est le cas quand vous êtes dans une voiture, voilà, devant ou derrière, soit il faut avoir des protections. Donc, si on donne ça aux particuliers, il faudrait qu'ils aient, alors avec une lampe, hein, où ils seraient à l'intérieur de la voiture, un peu comme un aspirateur. Il faudrait que les particuliers soient protégés avec des gros gants, une visière, enfin voilà. Donc ça c'est pas un système qui est très pratique. Après, on pourrait fabriquer le système qu'on a plutôt conçu pour les professionnels pour des particuliers. Avec un système qui est plus petit et moins cher, ça serait possible. Mais il faudrait le fabriquer en série et avoir beaucoup de demandes. Donc nous, on va plutôt attaquer d'abord la cible des professionnels et on verra après pour les particuliers. Il y a aussi une chose, c'est que en fait, il faut bien maîtriser la dose qu'on met d'ultraviolet dans la voiture.
Mmh, oui.
Parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi, il faut une certaine dose, une certaine durée. Et donc, il faut des conditions d'utilisation qui soient précises et respectées pour que ça ait une efficacité.
D'accord. Voilà, oui, donc il vaut mieux que ce soit un professionnel qui maîtrise le système.
Il vaut mieux que ce soit un professionnel qui le fait et qui respecte les conditions d'utilisation. Et comme ça, vous êtes vraiment sûr que c'est désinfecté et qu'on ne prétend pas que ça l'a été. Quoi.
D'accord. Et on a une question de Marc sur Direct Studio qui nous dit c'est plus facile de désinfecter du cuir ou des tissus?
C'est pareil.
Il
n'y a pas de différence, c'est juste une question de dose. Il n'y a aucune différence. En fait, la différence vient du type de bactéries. Parce que les bactéries et les virus ont un niveau de résistance aux ultraviolets qui est différent. Le coronavirus, par exemple, c'est un virus qui est assez faible et qui résiste assez mal aux ultraviolets. Les bactéries, c'est encore moins résistant. Et ce qui est très résistant, c'est par exemple les champignons et les moisissures.
D'accord.
On peut aussi trouver dans une voiture où là, il faut des doses très importantes d'ultraviolets.
On a Catalan qui nous dit Carglass le fait à chaque réparation, mais par pulvérisation. Donc, c'est pas le même système en fait.
Non. Alors, c'est pas le même système. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est un système qui n'est pas chimique. Parce que si la réponse à la Covid-19, c'est pulvériser partout des produits chimiques, c'est pas très bon pour l'environnement. C'est pas très bon pour les gens qui font cette désinfection. Parce que oui. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils doivent être entièrement protégés avec un masque respiratoire, etc.
Et puis pour les automobilistes, accessoirement, qui sont dans la voiture, c'est pas terrible.
Exactement.
Et puis on ne va pas partout, surtout.
Pardon ?
Et puis ça ne va pas partout, forcément, quand on pulvérise.
Bon, je
ça
pense
va pas
que...
partout, mais on peut assez bien couvrir. Il y a des systèmes de nébulisation qui permettent de bien couvrir.
Mmh.
Mais après, effectivement, vous avez des résidus chimiques dans la voiture. Et puis on ne sait pas l'effet non plus de ces résidus chimiques sur D'accord. les plastiques et les garnissages.
Donc, merci. Voilà. Merci beaucoup Eric pour toutes ces précisions. Intéressant comme sujet. Merci beaucoup et rappelons que vous êtes donc le fondateur de la start-up UVMobi. Jean-Luc, on va revenir dans un instant.
Il y a d'ailleurs un site, hein, www.uvmobi, tout attaché, mobi.com.
Parfait, comme ça, on peut en savoir plus. Michel sera là dans un instant. Il a entendu parler, et peut-être l'avez-vous vu aussi dans un JT, je crois que c'était hier ou avant-hier, que les hybrides rechargeables consommaient plus que les modèles essence, Jean-Luc.
Alors on va rentrer dans le débat.
Parce que ça interroge pas mal d'auditeurs, parce que ce sujet a été beaucoup vu, donc vous allez pouvoir y répondre. 32 16, l'appli RMC Direct Studio, à tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
9h33, le retour de votre week-end des experts d'automobile jusqu'à 10h. Dans un instant, eh bien, vous saurez tous sur le grade d'une huile. Ce sera notre question pas si bête. Mais auparavant, Michel qui nous appelle au 32-16. Bonjour Michel.
Allô.
Oui, bonjour. Oui,
bonjour.
Oui.
Bonjour Michel.
Bonjour François, bonjour Jean-Luc. Oui, je suis ravi de vous avoir. Je vous suis depuis quelques temps déjà.
Ben, merci.
Voilà. Et donc, je vous appelle parce que, oui, effectivement, hier soir, au journal de TF1, ils ont parlé de l'hybride rechargeable, qui serait pas aussi avantageux qu'il en a l'air par rapport à l'essence. Ils ont parlé d'un monsieur, justement, qui avait un modèle Mitsubishi, hybride rechargeable, et on lui promettait 60 km, il en faisait 40. Et finalement, quand il mettait de l'essence, bah, il y allait plus souvent, parce qu'il allait en Normandie régulièrement. Alors, justement, c'est ça que je me suis posé des questions, que j'ai voulu... vous joindre pour savoir quel était votre point de vue là-dessus.
Où était le vrai du faux ?
Oui. Parce qu'en fait, le constat de ce reportage, pour qu'on comprenne bien, c'est que les voitures hybrides rechargeables consommeraient plus et pollueraient plus qu'un véhicule 100% thermique. C'était ça, hein, la conclusion de ce reportage. Oui. Voilà, pour qu'on comprenne bien.
Bon, alors je vais tout vous dire. D'abord, j'ai écrit en 2017 un article pour dénoncer justement les dérives des hybrides rechargeables, qui a été éminemment commenté à l'Assemblée nationale, puisque tout le monde avait trouvé très bien que je me sois penché sur ça à l'époque.
Ah, tout à l'heure, notre auditeur disait docteur Moreau.
Ouais, hein, je comprends mieux maintenant. J'ai trouvé à l'époque que deux hybrides rechargeables qui étaient réellement plus verts que leur équivalent essence, c'était la Prius hybride rechargeable et c'était la Hyundai Ioniq hybride rechargeable. Voilà, c'était les deux seuls qui vraiment, dans tous les cas de figure, attention, je précise bien, dans tous les cas de figure, étaient plus propres que la version thermique. Vous allez me dire, la Prius, elle n'existe pas en version thermique, donc c'était pas compliqué de... On prenait la version hybride en comparaison. Maintenant, il faut bien comprendre que sur un hybride rechargeable, on a une batterie. Alors, c'est vrai que les autonomies annoncées par les constructeurs, en général, c'est entre 50 et 60 km. Pourquoi 50 minimum ? Parce qu'on ne bénéficie du bonus que si on peut prouver qu'on a 50 km d'autonomie en électrique. Donc, ils ont dimensionné la taille des batteries pour qu'à l'homologation, on ait 50 km. Dans la réalité des faits, c'est 30 km si vous faites de la voie rapide, c'est 45 km si vous faites de la ville, éventuellement 50 si vraiment vous êtes dans les bouchons. Donc, on a toujours une autonomie électrique qui est souvent inférieure à ce qu'annonce le constructeur. Mais le vrai problème, en fait, des hybrides rechargeables, qui sont aujourd'hui majoritairement achetés par des entreprises. Pourquoi par des entreprises ? D'abord, parce que l'homologation est très intéressante pour à la fois les constructeurs, parce que le niveau de CO2 est très bas sur les hybrides rechargeables, donc ça leur permet, dans leur gamme, vous savez qu'ils ont des objectifs à remplir, ils ne doivent pas dépasser 95 grammes par kilomètre de CO2. Pour l'ensemble de la gamme, un hybride rechargeable, même un gros véhicule qui fait 300 chevaux, il va être à 45-50 grammes. Donc c'est très intéressant. Donc ils homologuent beaucoup de véhicules hybrides rechargeables pour baisser les émissions globales de leur gamme. Ça, c'est le premier truc. Les entreprises les achètent parce qu'il n'y a pas de TVS, parce que les niveaux de CO2 sont très bas. Donc fiscalement, c'est une niche très intéressante.
Et à la limite, on se fout qu'elle soit hybride rechargeable ou pas.
Exactement. Maintenant, la vraie question, est-ce que c'est écologique ou pas ? Ça l'est si on recharge son véhicule. Si vous rechargez votre véhicule, vous allez avoir d'abord consommation, enfin, entre 30 et 50 km en tout électrique. Ou alors, si vous fonctionnez en hybride, vous allez profiter de cette énergie électrique pour baisser votre consommation d'essence.
Mais si on la recharge pas.
Mais si vous la rechargez pas.
On se retrouve avec une voiture plus lourde.
Vous vous retrouvez avec une voiture plus lourde, mais qui va quand même être hybride. Donc, si on la compare à un modèle purement thermique équivalent, dans certains cas de figure, elle va être meilleure. Si vous êtes sur route, si vous êtes en ville, un hybride rechargeable va consommer moins que le modèle thermique équivalent. Maintenant, si vous faites que de l'autoroute avec un hybride rechargeable que vous rechargez jamais, typiquement, le VRP d'une boîte, on lui donne un hybride rechargeable, il fait que de l'autoroute, il recharge jamais. Et sur l'autoroute, il va consommer plus parce qu'il trimballe une grosse batterie et puis des moteurs électriques. Zéro pointé, il a tout faux. Donc, il y a des cas de figure où effectivement, c'est plus polluant, et d'autres cas de figure où ça l'est moins. Mais ce qu'il faudrait, c'est inciter les entreprises qui achètent de l'hybride rechargeable à installer des bornes de recharge sur les lieux de travail pour que les employés puissent recharger.
Oui, mais le problème, c'est que comme c'est pas indispensable de recharger, on n'a pas cette pression comme on peut l'avoir avec un véhicule électrique.
Et puis
les gens s'en foutent, quoi. Ouais, c'est pas grave, je fais plein et puis c'est réglé.
Exactement. Et c'est d'autant plus facile de s'en foutre, comme vous le dites, que souvent ils ont des cartes de carburant, les gens qui ont des véhicules de société,
qui payent pas,
pas le carburant et qui rechargent jamais. Donc on va dire que dans l'usage, c'est un vrai problème aujourd'hui, les hybrides rechargeables, parce qu'effectivement, on ne fait pas baisser dans l'usage les émissions de CO2. Mais par contre, le véhicule permettrait, oui, de le faire, mais il faudrait qu'il y ait un changement de comportement des utilisateurs.
En fait, c'est la faute de l'automobiliste.
C'est la faute de l'automobiliste.
On est d'accord.
Voilà.
Voilà. Et c'est vrai que c'est plus efficient sur des courts trajets,
ça sera toujours
sur des
plus
trajets
efficient.
Urbains que sur des longues distances, on est d'accord.
Mais typiquement, l'autoroute à vitesse stabilisée, il n'y a pas mieux qu'un diesel pour faire une consommation basse.
Voilà, on est d'accord. Et l'hybride rechargeable ne sert à rien dans ce cas-là.
Non, ça ne sert à rien. L'hybride rechargeable, il va être utile en ville, vous accélérez, vous ralentissez.
Non, mais c'est
intéressant. Il va être utile sur route également. Il va être
pour
utile...
une routière, l'hybride rechargeable, ça n'a pas de sens, en fait. Si on ne fait que de l'autoroute, ça n'a pas de sens.
Pour quelqu'un qui fait que de l'autoroute, ça n'a pas de sens.
Voilà. Bah, c'était intéressant, en tout cas. Merci, Michel, pour cette question. Ça vous va comme réponse?
Oui, tout à fait, mais merci. Oui, oui, en effet.
Eh bien, voilà. Beaucoup. Merci, Michel.
Bonne journée à vous et merci. Au revoir.
Il est 9h40.
Tiens, François, avant de passer à autre chose, on avait Ludovic qui nous disait tout à l'heure, parce que on a quand même un vrai problème, a priori, avec les garagistes et l'entretien des boîtes automatiques, qui nous dit, il y a le GNFA, c'est le Groupement National pour la Formation Automobile, qui organise au mois de décembre des formations sur les boîtes de vitesse automatique de toute marque. Ces formations peuvent être prises en charge. Elles ne sont pas réservées aux garages de marque. Donc, si vous voulez vous intéresser, que vous êtes un professionnel, vous voulez vous intéresser aux boîtes automatiques et en particulier à leur vidange, hein, qui va devenir de plus en plus fréquente, puisque aujourd'hui les boîtes automatiques représentent la majorité des transmissions qui sont vendues sur les voitures récentes.
D'accord.
Donc il va falloir s'y mettre, bah, c'est le moment ou jamais.
Dans un instant, nous aurons Yann qui va nous parler de son Audi. Il a des soucis pour trouver des pièces détachées. Alors elle date de 92, hein, c'est pas tout à fait récent. On va retrouver sa question, mais dans l'immédiat, eh bien, c'est la question pas si bête.
Si je vous dis, con, vous avez l'air, c'est pas français.
RMC, votre auto.
C'est juste, mais c'est pas français.
La question pas si bête.
C'est une excellente question.
Et on va parler du grade de l'huile.
Qu'est-ce que c'est que le grade d'une huile? Vous avez
C'est 15W machin, c'est ça.
Parce que c'est pas le lieutenant, le colonel, parce que ça c'est des huiles.
Vous l'avez déjà
ils
fait
ont des grades, mais c'était tout à l'heure.
Oui.
Donc vous avez oublié.
Mais vous savez, il faut pas les faire souvent.
Vous n'avez pas oublié, voilà. Alors c'est sa capacité à conserver ses caractéristiques de fluidité, de viscosité à une ou deux températures extrêmes. Alors bon. Dans le cas d'une huile, aujourd'hui, toutes les huiles modernes sont ce qu'on appelle multigrades. Alors, vous avez un code à trois composantes, un chiffre, par exemple 15, suivi de la lettre W, c'est toujours la lettre W, qui signifie winter, donc hiver, vous qui parlez fluently English, voilà. Et ensuite, vous avez un nombre.
Bisous à Ophélie, d'ailleurs.
Yes, voilà, ça peut être 40, 50, etc., etc. Alors, au départ, on avait des huiles monograde, où il n'y avait qu'un seul chiffre, ou nombre, parce que ça peut être un chiffre ou un nombre, hein, c'est un chiffre, 10, c'est un nombre, qui était suivi de la lettre W. Ça indiquait en fait la fluidité de l'huile à très basse température. Il fallait, par exemple, sur les vieilles autos où on avait des huiles monograde, changer l'huile entre l'été et l'hiver. On mettait, par exemple, on passait d'une SAE 30 à une SAE 40 quand on était l'hiver ou l'été, ou même une SAE 20 l'hiver. Alors cet indice de viscosité, là il y avait trois lettres devant, ça veut dire Society of Automotive Engineers, c'est truc américain, ça a pas grand intérêt en fait. Alors le premier chiffre nous renseigne sur la fluidité à froid. Plus une huile va avoir un chiffre bas, plus l'huile va être fluide à froid. On est même aujourd'hui sur des huiles qui sont en 0W. Ça veut dire qu'elles vont être très liquides à froid. Pourquoi est-ce qu'on va vers des viscosités très, très basses, enfin une viscosité très basse à froid ?
Une fluidité très, très importante.
Bah parce que quand on démarre, on réclame moins d'énergie pour démarrer avec une huile à basse viscosité. Donc, on va diminuer la consommation du véhicule,
d'accord,
principalement d'ailleurs sur un cycle d'homologation où on a beaucoup de démarrage et de redémarrage. Et ensuite, le second chiffre indique la capacité de l'huile à rester visqueuse, c'est-à-dire à pas trop se liquéfier par temps chaud.
Donc c'est, par exemple, on a le 15W40.
Voilà.
Le 15, c'était
le 15, c'est
de fluidité,
à froid, voilà.
Froid.
Et 40,
après, le 40,
c'est la résistance à chaud. Alors la meilleure huile, dans l'absolu, ça serait une 0W60 ou 100. Ouais, voilà.
D'accord.
Voilà.
Ok. C'est intéressant ça. Hein Jean-Luc, 9h43, on revient dans un instant avec Yann et puis Marie-Laure Niveau qui est responsable d'intelligence marché chez AAA Data. On va évoquer avec elle eh bien, la crise économique et le Covid-19 qui a un impact sur le comportement d'achat des automobilistes. A tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
10h moins le quart, dernière ligne droite de ce week-end des experts auto, avant de retrouver les paris RMC à partir de 10h. On enchaîne tout de suite et nous avons Yann au 32-16. Bonjour,
oui,
Yann.
Bonjour, je suis content de vous entendre.
Bonjour Yann.
Je vous expose mon problème qui sera sans doute pas simple. Je ne doute pas que vous n'allez pas pouvoir me donner des réponses comme ça. C'est un problème que je pense que tous les gens qui sont un peu passionnés d'automobile et qui veulent... faire de l'ancien ou des véhicules entre guillemets de collection, puisque j'arrive bientôt à 30 ans, vu que mon Audi, elle est de novembre 92, c'est le problème de trouver des pièces détachées.
Alors, c'est quoi comme modèle que vous avez?
Bah, c'est la première S4, 100.
D'accord.
S4 turbo, 230 chevaux.
C'est chouette en plus comme moto.
Elle marche très bien, je ne suis jamais tombé en panne, j'ai fait l'entretien évidemment régulièrement, une vidange par an, et j'ai changé l'embrayage 495 000 km. Donc, voilà.
Ah oui, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi vous nous appelez?
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai une fissure dans le collecteur d'échappement, et évidemment le premier réflexe quand vous avez une panne, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous allez voir votre garagiste de la marque, et malheureusement on me répond qu'il n'y a pas de pièce, ça n'existe pas.
Mais vous êtes allé voir, attendez, parce qu'il y a un site Audi classique, hein, il y a un site officiel de la marque, il faut peut-être aller jeter un œil dessus d'ailleurs.
Ah, j'ai pas pensé à Audi classique, dans la mesure où Audi, je m'en réfère à eux, effectivement.
Moi, ils auraient pu vous en parler, déjà.
Bah, ça, ils m'en ont pas parlé. Hein. Je voulais rester dans le giron Audi, ça me semble quand même être mieux si on peut avoir de la pièce d'origine. Mais ça ne se fait pas. J'ai un collègue qui est ancien chef d'atelier chez Audi et qui a téléphoné dans le Nord... où ils font là des essais, mais ils n'ont pas trouvé non plus. Donc, quand vous n'avez pas de pièces, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Internet, effectivement. Et j'ai fait des sites. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. J'ai trouvé un site, mais en Allemagne, où ils proposaient quatre collecteurs avec des prix différents. Quand vous faites le listing, vous voyez bien que c'est compatible avec 80 RS2, Audi 200 Turbo. Et il y avait aussi mon modèle. J'ai donc suivant le conseil de mon ami, en disant on va essayer de prendre celui qui est en meilleure qualité, alors on va prendre le plus cher, donc qui était à 329, en acier SS321, acier austénitique, capable de fixer du carbone de façon plus importante que les autres types d'acier, avec meilleure résistance à la chaleur.
Yann, excusez-moi, quelle était votre question? Parce que le temps presse malheureusement, et alors, j'aimerais bien que Jean-Luc réponde à votre question.
La question de savoir, c'est est-ce qu'il peut m'aider à trouver une pièce, un collecteur? Est-ce qu'il peut, je pense qu'il a le bras plus long que moi, appeler Audi France, savoir s'il y a des pièces détachées disponibles, quoi.
Alors, c'est Audi Héritage, en fait. Il faut que vous alliez voir sur Audi Héritage. Vous aurez sans doute un site qui va être en anglais et en allemand. Hein, puisque vous allez vous retrouver, voilà.
Audi est allemand, oui.
Ouais, mais en général, les constructeurs allemands proposent, on va dire, une grande majorité de pièces, par rapport aux constructeurs français. On trouve beaucoup plus de pièces chez les constructeurs allemands que chez les constructeurs français. Donc, en allant voir sur Audi Héritage. Après, si vous ne trouvez pas votre collecteur, le problème, c'est qu'effectivement, la réparation d'un collecteur, c'est très touchy, et en général, ça ne tient pas, les soudures qu'on fait sur les collecteurs, parce que c'est des pièces qui chauffent beaucoup.
Et oui, donc forcément,
évidemment,
les soudures
alors, c'est un peu la roulette russe, quoi.
Ouais.
Malheureusement.
Bon, Audi Héritage, donc. Yann, allez jeter un œil sur ce site, peut-être que vous trouverez votre bonheur. Jean-Luc, pour terminer ce week-end des experts, on va s'intéresser à cette crise économique liée au Covid-19. Qu'est-ce que ça a changé dans le comportement d'achat des automobilistes? Et on en parle avec notre invitée, Marie-Laure Niveau. Bonjour.
Bonjour Marie-Laure.
Bonjour. Bonjour.
Bon, c'est une étude qui est sortie cette semaine, qui a été faite par 3ADATA. Donc vous êtes les spécialistes de la donnée augmentée, c'est comme ça qu'on dit, hein?
Oui, tout à fait.
Voilà, donc vous avez analysé. Alors, ce qui est très intéressant, parce que là, ce n'est pas du déclaratif, vous avez analysé dans le détail, en vous servant des chiffres de vente, c'est bien ça, le changement des comportements, et puis par catégorie d'automobilistes.
Oui, tout à fait. On a analysé les comportements d'achat des automobilistes, vous et moi, donc des particuliers. On a regardé sur des 15 ans d'historique leur comportement et on a comparé par rapport à ce qui s'est passé en 2020 versus 2019. et on a noté un certain nombre de changements, d'évolutions en tout cas.
D'accord. Alors, quels sont les changements les plus importants et pour quelle catégorie ?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la voiture individuelle est vraiment considérée comme le moyen de transport le plus sécurisant dans ce contexte sanitaire. Et donc les achats de voitures par ces particuliers ont considérablement augmenté depuis le confinement, que ce soit en des voitures neuves et ou des voitures d'occasion. Donc les premiers, on va dire, enseignements, c'est la prise en compte des préoccupations environnementales. Elles s'inscrivent vraiment dans ces achats. On voit que les voitures achetées émettent un petit peu moins de CO2 par rapport à l'année dernière.
Ça veut dire qu'il y a eu... En fait, le confinement, cette crise, a permis aux gens de se dire « Bon, d'accord, on va avoir encore besoin de l'automobile pendant un petit moment. Et comme on va en avoir besoin, autant qu'elle soit plus propre pour qu'on vive dans un monde un peu meilleur. »
Voilà, il y a vraiment le besoin automobile, il est affirmé, mais on prend quand même en compte les préoccupations environnementales. C'est bon pour l'environnement et c'est bon pour le porte-monnaie, parce que globalement, le malus est souvent un petit peu moindre sur les tranches de CO2, il évolue différemment. La deuxième évolution qu'on a constatée, c'est que malgré tout, le confort et le plaisir de conduire est toujours recherché, parce qu'on va utiliser sa voiture sur peut-être des trajets plus longs que d'habitude, puisque par exemple pour partir en vacances en France cet été, eh bien beaucoup de gens ont pris leur voiture au lieu de partir plus loin avec des vols à l'extérieur. Donc la recherche du confort est venue. Et le dernier enseignement, c'est que...
Malgré la crise économique, ouais.
Voilà, on a quand même à faire attention à son budget, parce qu'il y a de nombreuses incertitudes. Et donc, on cherche les bonnes affaires. On va préférer des occasions récentes, où on va aller sur des gammes un peu moins onéreuses. Donc il y a ces évolutions-là.
Très bien, merci beaucoup Marie-Laure Niveau pour toutes ces précisions. Rappelons que vous êtes responsable intelligence marché AAA ou
AAA. 3A Data.
3A Data, ouais. Voilà, AAA, 3A Data. Merci beaucoup. Jean-Luc, l'actu de la semaine dans le monde de l'automobile, on va commencer par Total. Total qui va opérer le réseau de bornes de recharge électrique de la ville de Paris.
Oui, on en a parlé la semaine dernière, mais cette fois c'est officiel. Total va exploiter et développer les réseaux de bornes de recharge parisien Bélib et l'ancien Autolib pour une durée de 10 ans. L'énergéticien promet à terme une électricité 100% renouvelable et environ 2300 points de recharge, soit une augmentation de 56% par rapport à ceux actuellement en service. Dans le détail, ça signifie 270 points de recharge Bélib déjà existants, 1830 points de charge neufs d'une puissance de 7 kW, 140 points de recharge neufs dédiés aux deux roues motorisées d'une puissance de 3 kW et 10 hubs de charge rapide d'une puissance de 50 kW installés dans des parkings souterrains, dans 10 parkings souterrains. Total annonce des tarifs attractifs et un parcours client simple et efficace.
Enfin, quand on voit 7 kW de puissance, on est loin des bornes de recharge ultra rapides.
Il y aura du 50 kW quand même dans les parkings.
Oui, mais enfin, 10 hubs sur une ville.
Ça ne fait pas beaucoup.
Comme Paris, c'est pas très ambitieux. Enfin,
voilà, mais alors, cela dit, s'il n'y a plus de voitures dans Paris dans 10 ans, ça ne sert à rien de mettre des bornes.
Oui, on aura beaucoup plus de... On aura de la place pour les bornes. Honda qui reçoit donc la certification de niveau 3 pour la conduite automatisée. C'est petit événement.
Ouais, constructeur japonais, le premier au monde à recevoir cette certification, même Tesla à la part. Il faut préciser que l'autorisation de circuler n'est valable qu'au Japon et dans des circonstances très particulières. La conduite automatisée niveau 3, c'est le premier niveau totalement autonome, ce qui signifie que le conducteur peut quitter la route des yeux, lâcher le volant et les pédales. Le véhicule se substitue alors totalement au conducteur. Toutefois, Honda qui lancera ce système sur la Légende précise qu'il ne pourra être utilisé ce système que en conduite automatisée sur autoroute et à une vitesse inférieure à 50 km/h, ce qui limite beaucoup les cas de figure. D'ailleurs, même si la voiture conduit seule, le conducteur doit tout de même être en mesure de reprendre le contrôle lorsque le véhicule émet un signal d'alerte. On est donc encore loin de la voiture qui vous mène d'un point A à un point B sans aucune intervention humaine. Ça ne va pas être tout de suite.
Et on termine avec ces assureurs qui profitent peut-être de la crise sanitaire, Jean-Luc.
Ouais, cette semaine, c'est l'association UFC Que Choisir qui repose la question après avoir pointé du doigt les 2,2 20 milliards d'euros économisés par les assureurs auto et moto lors du premier confinement. L'association de consommateurs dénonce aujourd'hui les hausses de tarifs programmées pour l'an prochain. Malgré une baisse de la sinistralité importante, les contrats d'assurance de véhicules motorisés devraient en effet augmenter en moyenne de 2% en 2021. Oui. Inadmissible pour EFC Que Choisir, qui dénonce aussi la politique deux poids deux mesures pratiquée par ces derniers. Ils refusent en effet publiquement de rétrocéder cette manne, mais consentent des réductions aux assurés qui font des demandes individuelles.
Donc ça vaut le coup d'appeler son assureur.
Exactement.
Et dire, attendez les gars,
ouais,
faites un petit effort.
Ouais.
Bon, je crois qu'on peut gagner 30 euros, hein, mais bon, écoutez, c'est toujours ça de gagner.
Ouais, si 30 euros par des millions d'utilisateurs, c'est pas mal.
Jean-Luc, on se retrouve dimanche prochain, votre auto, 7h-10h. Et dans un instant, c'est les Paris RMC, Jean-Christophe Drouet et toute sa Dream Team. Salut Jean-Christophe.
François, Jean-Luc, bonjour à vous.
Salut.
Les Paris RMC dans quelques instants autour de la 11e journée de Ligue 1 avec cette affiche ce soir entre Lille et Lorient. Il y a également Lyon sur le pont. Bref, on va tenter de vous conseiller au mieux, comme tous les week-ends, pour un petit peu d'argent.
Les Paris dans un instant, bon dimanche avec RMC. On sera là le week-end prochain. Salut à tous.